Gwyn Morlandi, votre phare dans la nuit.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Gouinement Lundi.
Alors attends, Aura, on s'est pas trompé de radio là, parce qu'on n'est pas Fréquence Paris pluriel.
Et non Isa, car c'est la nouvelle de la rentrée. Après 9 ans sur FPP, on change de fréquence.
Ah d'accord, je me disais aussi que ça avait beaucoup changé.
Pour celles qui nous découvriraient ce soir, GL c'est une émission féministe en non-mixité choisie qui porte la voix des lesbiennes, des bi et des trans. Et à partir de ce soir, vous pourrez nous retrouver un lundi sur 4 à 21h. En direct sur Radio Campus Paris, et bien sûr, tous les jours et à toute heure en podcast sur toutes les plateformes. Et ce soir, c'est donc la première émission de la saison, et pour cette première, on a un très beau plateau.
Et oui, parce qu'on va parler d'un livre remarquable qui s'appelle « Le déni lesbien, celle que la société met à la marge », avec sa co-autrice Sarah Jean-Jacques, docteur en sociologie et chercheuse associée au laboratoire architecture-anthropologie de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette. C'est super long comme titre. Et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
La seconde autrice du livre, c'est Sophie Pointurier, parce qu'elle ne l'a donc pas écrit toute seule. Et ce livre est sorti en septembre aux éditions HarperCollins France. Et il recueille les témoignages de 20 lesbiennes célèbres, dont l'autrice, compositrice, interprète Mélissa Lavaux, qui est présente également ce soir. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Au programme également, on retrouve avec bonheur Laura de la JL, l'association des journalistes LGBTQI+, pour une chronique média, et Luce pour nous faire rire. On ira aussi faire un tour du côté de la librairie Violette & Co.
Et petit événement peut-être pour vous, mais grand événement pour la super fan qui est Aura. En fin de mission, ne ratez pas l'interview que nous a accordée la musicienne québécoise Safia Nolin, qui sort un nouvel album. Allez, Gouinement Lundi sur Radio Campus Paris, c'est parti!
Avant d'entrer dans le vif du sujet, on commence l'émission avec Laura de la JL pour la chronique média. Bonsoir Laura.
Bonsoir. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour les femmes saphiques, les personnes saphiques au sens large. Lucie Casté n'est toujours pas première ministre. Oui, je sais, c'est dur. Michel Barnier nous vend un tout petit peu moins de rêves. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais revenir sur le coming out de la candidate à Matignon du Nouveau Front Populaire.
Et elle a fait comment déjà son coming out?
Alors Lénarc a choisi une voie très classique et je dirais même hétéronormée, à savoir l'hebdomadaire Paris Match de Vincent Bolloré pour se révéler. Comme dans un pied de nez à la droite qui a ses petites habitudes, je pense à Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez et autres Gérald Darmanin qui dévoilent régulièrement leurs épouses et enfants en tenue du dimanche, bondissant sur le gravier bien ratissé du ministère de l'Intérieur. Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant et dire qui je suis, dit-elle très sobrement. Alors là, que n'avait-elle dit ? Cette phrase lui a valu d'essuyer une violente vague de lesbophobie sur les réseaux sociaux. On lui a reproché d'étaler sa vie privée et sa vie sexuelle. Les attaques sont notamment venues du camp présidentiel, comme celle de Nathalie Loiseau, ancienne tête de liste macroniste aux européennes, qui a lâché. Pour moi, la politique passait par la discrétion sur soi-même. Mais ça, c'était avant. Je dois être très old school. Old school ou homophobe ? Lui a répondu Sandrine Rousseau, nous ôtant les mots de la bouche. L'invitation à la discrétion, c'est réservé aux homosexuels, a renchéri le sénateur communiste Yann Brossa, rappelant que Nathalie Loiseau s'est plusieurs fois affichée avec son mari et dévoilé son jardin secret dans Paris Match en 2019.
Alors, il y en a d'autres qui ont vu une façon de gagner en notoriété pour Lucie Casté.
Oui, comme Géraldine Wessner, rédactrice en chef du Point, qui a tweeté un mystérieux. Il y a 10 jours, les journalistes avaient interdiction d'en parler. Je me demande ce qui a soudain pu changer. Le Point, qui a d'ailleurs titré un de ses articles, « Que Lucie Casté soit lesbienne, nous indiffère ». Bon, manifestement, ça les obsède quand même un peu. Ou l'élu de Paris, David Alphand, pour qui, honnêtement, le côté « Regardez comme je suis hype, je suis même mariée à une femme, c'est d'un ringard ».
Alors là, j'ai envie de dire, David, c'est qui le ringard ici?
Oui, voilà, encore une fois, Yann Brossa a bien répondu. Si les imbéciles qui répètent qu'on fait son coming out médiatique pour faire parler de soi étaient exposés au 10e des insultes qu'on subit quand on franchit ce pas, ils changeraient d'avis assez vite. En fait, ce qui se joue ici et ce que certaines font mine d'ignorer, c'est la question de la maîtrise du timing de son coming out. Lucie Casté l'explique dans une interview à Mediapart. Elle avait eu vent du fait que des journalistes s'apprêtaient à lui poser des questions sur sa famille et la conception de son enfant. Et elle a ainsi pris les devants en faisant ce coming out très pudique afin de ne pas être outée de force. Cela avait été notamment le cas de l'élu de Paris, Jean-Luc Romero-Michel, en 2000, et ça avait été très violent pour lui.
Et j'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce que c'est encore plus difficile de faire son coming out en tant que lesbienne ?
Alors clairement, dans Sortir du placard LGBT en politique, l'ancienne journaliste et conseillère politique Sonia Thir explique que les élus lesbiennes, victimes à la fois de sexisme et d'homophobie pour changer, payent un prix deux fois plus fort pour cette visibilité. Pour preuve, celles qui sont out se comptent sur les doigts de la main.
Mais Mélanie Vogel, si tu nous entends, on t'aime.
Mine de rien, depuis le coming out en 98 de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, vécu par beaucoup comme un acte fondateur, on est encore très loin de la normalisation du fait d'être ouvertement LGBT en politique. Cette question de la représentativité en tant que femme lesbienne sur une candidature à un poste de Premier ministre est loin d'être anecdotique, comme veut le croire et l'écrit Le Point. Oui, la société a évolué, mais si lentement. Si on concède aux responsables politiques le fait d'être out, il faudrait qu'elles le soient bien discrètement, surtout. Gay, mais pas trop. C'est le cas de Gabriel Attal qui a fini par assumer son homosexualité après avoir été outé, mais défendait bec et ongles sa ministre Catherine Vautrin, anti-mariage pour tous, afin de ne surtout pas être marketée LGBT. Les politiques LGBTI+, qui s'engagent sur un sujet proche de leur vécu, comme l'ancienne députée macroniste Laurence Vansunebrock ou l'élu écologiste de Paris Alice Coffin sur la PMA, sont très vite étiquetées radicales ou traitées de lobby gay, je cite. Première maire de France transgenre, Marie Co, elle, est peut-être la plus courageuse de tous lorsqu'elle répond aux transphobes sur les plateaux télé. Et tous sont finalement des inspirations pour celles qui n'osent pas faire leur coming out, malgré cette haine rampante qui va croissante. Oui, ce coming out ne nous indiffère pas.
Merci beaucoup, Laura. Et sinon, il paraît que la JL organise une soirée qui a l'air incroyable.
Et oui, tout à fait. C'est ce samedi, 19 octobre, et ça va être fou. La soirée s'appelle Out, la teuf, panique morale at the disco. Elle a lieu à Césure, à Paris, dans le 5e arrondissement. On a eu envie de réagir aux paniques réactionnaires qui menacent nos existences. Alors d'abord, on va réfléchir et s'instruire autour de deux tables rondes avec des personnes passionnantes, l'une sur le rôle des médias dans la montée de l'extrême droite, ou la polarisation des esprits, et l'autre sur les médias face à l'offensive transphobe qui se fait de plus en plus insistante. Et puis après, on va rire, on va s'enflammer pour des artistes mêlant drag, stand-up et voguing, à savoir la star de Drag Race France, Mami Wata, Miroslav Toileman, Alia Express ou encore Noam Sinso. Et pour finir de faire paniquer nos petits cœurs, on aura deux DJ sets. Voilà, donc prenez vite vos places, l'entrée est à prix libre et les billetteries sont dans la bio de la JL sur Instagram.
Merci, super programme, on y sera.
Alors maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. Alors Sarah Jean-Jacques, tu es la co-autrice avec Sophie Pointurier du Déni lesbien, dont le sous-titre est aussi celle que la société met à la marge. Dans ce livre, vous avez rencontré 20 personnalités out pour leur demander comment elles vivaient le fait d'être lesbiennes au grand jour. Alors déjà, comment vous êtes devenue l'idée de ce livre ?
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Comment est venue l'idée de ce livre ? En fait, c'est un livre qui s'inscrit dans la continuité de notre travail, celui qu'on mène au sein de l'Observatoire de la lesbophobie, qu'on a cofondé en 2022. Et en fait, on est parti de cette question assez simple que toutes les lesbiennes se posent à un moment, c'est pourquoi il y a aussi peu de personnalités françaises qui se disent publiquement lesbiennes. Pourquoi il y en a aussi peu ? Et donc on a voulu faire le lien entre la lesbophobie évidente qui vise les lesbiennes au quotidien et ce peu de visibilité médiatique. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait rencontrer, en tout cas tenter de rencontrer en fait des personnalités françaises lesbiennes pour les interroger sur leur expérience publique et comprendre un petit peu comment ça se passe quand on est une lesbienne visible en France.
Comment vous avez choisi ces 20 lesbiennes qui témoignent dans le livre ?
Alors, en tant qu'insider, il était évident qu'on en avait repéré plusieurs, nombreuses même. Donc, on avait d'abord établi une liste de 60 personnalités qui étaient out à partir de deux critères qu'on a définis au départ de notre travail. Le premier, c'était d'être reconnu dans une activité professionnelle particulière. Et le deuxième critère, c'était d'avoir déjà pris la parole médiatiquement sur le fait d'être lesbienne ou en couple avec une femme, et ce, du propre chef des personnalités et en dehors de leurs propres réseaux sociaux. Et ensuite, on a envoyé nos invitations et il s'avère que 20 personnes ont accepté de nous faire confiance pour participer à ce livre, dont Mélissa Lavaux.
Voilà, et donc Mélissa, écoute, donc, tu es là pour témoigner de ça. Et pourquoi tu as accepté donc, de témoigner ?
Parce que partout où je vais, en tant que lesbienne, j'ai l'impression que je vais être une des seules personnes noires. Et je me suis dit, bon, ben, je serai la noire de l'affaire, si jamais. Et pour deux, c'est aussi, il n'y a pas beaucoup de discours de lesbiennes immigrante. Il n'y a pas beaucoup de discours de lesbiennes d'origine antillaise, noire, dans les espaces publics, dans l'industrie de la musique. De toute façon, il n'y a même pas beaucoup de visibilité de femmes noires dans la musique, en France en tout cas. Et du coup, je trouvais que c'était pertinent de lâcher deux ou trois phrases. Bon, je pense que je vous ai parlé 3 heures en plus.
Oui, c'est vrai. T'as dit oui tout de suite alors.
Je suis très mauvaise avec mes mails, donc je pense que j'ai dû prendre une semaine ou deux à répondre. Je suis
vraiment
désolée.
C'était relativement rapide, ouais.
Ah d'accord.
Ouais.
Et donc du coup, ça s'est passé comment? C'était des entretiens?
Oui, en fait, avec Sophie, on a établi une grille d'entretien comme un terrain en sociologie. Et on voulait aborder 3 thématiques en particulier, la question du coming out, en tout cas de la visibilité publique, la question des représentations et la question des violences. Et donc ensuite, quand on a rencontré nos enquêtés, c'était une sorte de discussion en fait, où on guidait avec cette grille-là, qui durait entre une heure grand max, une heure et demie.
Apparemment 3 heures, non, pour Mélissa, c'est pas ce que tu disais.
Après ça, moi je suis particulièrement bavarde et aussi ça m'a pris genre... Je sais pas, j'ai un petit coup de vieille, donc ça m'a pris du temps à me souvenir de mes premières années sur Paris. Et aussi, genre, je me sens pas pareil que quand je me sentais quand j'avais 23 ans. Et maintenant, j'en ai presque 40. Et je n'ai pas la carrière que j'avais quand j'avais 23 ans. Je suis quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir dans l'industrie de la musique et un peu plus de visibilité. Donc, ça a évolué par rapport au... quand je suis arrivée. Et j'étais pas vraiment out, mais j'insistais à dire que j'étais pas hétéro. Donc ça, c'était assez drôle et compliqué à naviguer avec les journalistes.
Et Sarah, dans votre livre que vous avez écrit avec Sophie Pointurier, il y a un calcul qui nous a beaucoup surprise. C'est l'estimation que vous avez faite du nombre de lesbiennes en France, 440 580, soit l'équivalent de la ville de Toulouse. Et nous, on pensait qu'on était beaucoup plus, naïvement. Est-ce que tu penses que ce chiffre qui paraît bas est aussi dû au fait que beaucoup de femmes ne se pensent pas lesbiennes, notamment par manque de représentation?
Alors, nous, quand on a fait ce calcul l'été dernier, donc on s'est amusé à faire ce calcul avec une calculatrice à partir des données statistiques qui existaient, on a trouvé que c'était déjà énorme comme nombre comparé au nombre auquel on pense en général dans son quotidien. On est tellement peu visible, ou en tout cas dans des espaces très circonscrits, que quand on s'est rendu compte que le nombre total, a priori, enfin c'est vraiment une hypothèse, était presque le nombre d'habitants de la ville de Toulouse, on trouvait ça assez énorme. Donc ça, c'est la première chose, même si proportionnellement, c'est peu. En fait, oui, c'est lié sûrement à plusieurs choses. Déjà, c'est le fait de se dire lesbienne, c'est très différent du fait d'avoir des relations affectives et sexuelles avec des femmes, on va dire. Donc déjà, il y a une démarche politique, en tout cas, de se définir comme ça, de mettre en avant cet aspect-là de son identité. Et effectivement, la question des représentations joue beaucoup, mais également le stigmate qui pèse sur le mot lesbienne lui-même, qui est toujours quand même un stigmate tenace, qui associe quand même les lesbiennes à quelque chose de très dégradant. Et donc les lesbiennes elles-mêmes, en fait, osent peu, jusqu'à maintenant encore, même des personnes plus jeunes, sont pas très à l'aise avec ce terme-là.
Ouais, et puis en plus, dans l'effacement, ce qu'on disait des femmes, il y a aussi ce dont vous parlez dans votre livre, l'effacement du lesbianisme de femmes célèbres comme Rosa Bonheur. Donc c'est le documentaire, le cas Rosa Bonheur, qu'ont fait Carole Cazier et Anna Polony.
Oui, oui, exactement. Oui, c'est un documentaire qui retrace l'effacement historique de Rosa Bonheur, mais qui est en fait un exemple qui illustre l'effacement historique des artistes lesbiennes au cours de l'histoire. Et notamment la réaction de la propriétaire du château de Rosa Bonheur est assez claire sur le sujet, c'est-à-dire qu'elle refuse en fait de reconnaître le lesbianisme de Rosa Bonheur et préfère lui accorder une forme d'asexualité, ou en tout cas elle se prête au jeu d'une fiction qui a été écrite sur Rosa Bonheur où elle a une relation avec un homme, donc une relation hétérosexuelle. Donc on voit bien que selon les réalisatrices, elles le disent très bien dans le livre, pendant l'entretien, ça pourrait en fait avoir des conséquences sur le business, c'est-à-dire sur la fréquentation de cet endroit-là. Si Rosa Bonheur est lesbienne, ça pourrait faire perdre un avantage économique ou en tout cas une fréquentation du lieu. Donc ça veut dire beaucoup de choses.
Mais du coup, en quoi c'est important d'avoir des modèles lesbiens? Et ça sert à quoi?
Les modèles lesbiens, toutes les personnes hétéros en ont, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte de cette chance énorme et cette chance précieuse d'avoir des personnes à partir de lesquelles on peut se projeter dans la société, on peut s'identifier, on peut, on peut se sentir représenté. Et c'est vrai qu'en tant que lesbienne, moi personnellement, on le dit avec aussi Sophie, il y en avait très peu, moi, à l'époque de mon coming out, quand j'avais 14 ans, donc c'était il y a presque 20 ans. J'étais très déçue quand j'ai appris que Cécile de France, dans l'Auberge espagnole, n'était pas vraiment lesbienne.
On a toutes été super déçues, enfin oui.
Donc en fait, ça renvoie à son isolement. Donc le fait justement de ne pas avoir de modèle, c'est-à-dire de personnalité publique qui se disent lesbiennes dans la société, ça renvoie à son isolement. Ça fait qu'on peut pas, voilà, se projeter. Enfin, oui, je pense qu'on voit vraiment cette question de l'isolement et de la projection dans la société, de s'imaginer qu'on puisse vivre en étant épanoui, en étant un peu comme tout le monde. Et c'est vrai que le coming out de Lucie Casté, ou en tout cas toutes les personnalités, nous, qu'on a interviewées, c'est vraiment primordial et c'est nécessaire pour les lesbiennes, parce qu'on peut dire qu'on peut être une chanteuse reconnue dans l'industrie musicale, on peut être une politicienne, on peut être une grande sportive comme Marie Patouillet. Donc ça permet vraiment, c'est une forme d'équité d'avoir accès à ces modèles-là.
Et toi, Mélissa, dans le livre, on apprend qu'au Canada, tu avais quelques représentations de femmes lesbiennes noires dans la musique, avec notamment Tracy Chapman et Michelle Ndegeocilo. Pourquoi ça a compté pour toi?
Parce que c'est un peu compliqué, mais quand j'étais au lycée, j'avais pris la guitare. Les garçons n'arrêtaient pas de me charrier parce que j'arrivais pas à jouer Stairway, la manière dont eux y jouaient. Et en fait, ça m'a poussée à écrire mes propres chansons. Et quand j'allais au Open Mic Night, la soirée micro ouvert, je sais pas comment traduire en français, de mon campus universitaire, il n'y avait pas de femmes noires. Et à chaque fois qu'il y avait, je me souviens un soir en particulier, il y a une fille qui a chanté une chanson, elle disait ça c'est une chanson de Feist, et en fait c'est une chanson de Nina Simone, et j'avais envie de la taper. et je me souviens, c'est la seule fois où j'ai heckle quelqu'un, où j'étais comme Nina fucking Simone, comme j'ai perdu la tête. Et ça m'est jamais plus arrivé, je suis beaucoup plus calme. Non, je suis encore plus en colère à mon âge, mais pour moi, c'était hyper important parce que énormément de ces femmes, genre Tracy Chapman à l'époque, elle n'était pas out. Michelle Ndegeocilo n'était pas nécessairement out. Après ça, elle avait pas mal, c'était très codé lesbienne. On avait aussi Skunk and Anzi, mais en fait, ça restait le monde anglo-saxon. Pour moi, ce que j'appréciais, c'est qu'il y avait une sorte d'acceptation, mais en DL, dans la communauté afro-américaine. Et Il y avait déjà un code, il y avait déjà des mots qui sont utilisés, et c'était même dans des films, comme éventuellement on a compris que Tracy Chapman sortait avec Alice Walker, qui a écrit La couleur pourpre, et il y a ce super personnage de chanteuse dedans, et le film est beaucoup moins lesbien que ne l'est le livre. Mais j'ai oublié le fil de la question et je suis très très désolée.
Oui, enfin, tu y réponds.
Non, d'accord, je voulais juste rajouter, parce que j'ai pas envie d'interrompre les gens, mais quand on m'a demandé la raison pour laquelle j'ai participé au livre, c'est aussi parce que pas mal de mes héroïnes, à travers l'histoire, sont des femmes noires, queer, qui sont mortes, enterrées dans des tombes non marquées, comme Pixie Smith, qui a dessiné le tarot, Rita Ward Smith. Il y a aussi Edmonia Lewis, qu'on appelait Edmonia Wildfire Lewis, qui était une sculptrice et la première femme noire à accéder à l'école des beaux-arts Oberlin aux États-Unis, qui a été éjectée et qui a fait toute une carrière en Italie. Et Mussolini l'a complètement effacé. Moi, j'ai passé un été à Rome pour essayer de retrouver ses traces et je n'ai rien trouvé. Et quand on m'a proposé cette interview, je me suis dit, en fait, je ne serai pas une de ces femmes qui sera effacée ou comme Rosa Bonheur où on attribuera un mari quelconque, alors que je suis assez fâchée contre les hommes. Les hommes 6-7, bien sûr, par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais par rapport à genre le reste de l'histoire de l'humanité. Et je refusais que ça m'arrive en cas où quelque chose m'arrive.
Ok, bah de toute façon, on pourra sortir les archives de Goodman lundi. C'est, parce que c'est, en plus, c'est pas la première fois que tu participes à une de nos émissions.
Non, c'est
pas la
première fois.
Tu étais venue il y a quelques années avec Léonie Bernier. On a fait une émission sur la musique lesbienne.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc voilà, rien que pour ça, tu ne seras pas effacée.
Merci.
Ce sera bien sûr plutôt pour ta musique. Et d'ailleurs, on va repasser à une première pause musicale. Alors donc, quoi de mieux pour célébrer notre lesbianisme que d'écouter le morceau sobrement appelé « Lesbians » avec un cœur de l'article hyper-pop Alice Lungiu Gao.
All out of your lesbians, I'm fucking crazy.
Lesbienne, est-ce que c'est pour vous un mot avec lequel vous êtes à l'aise et que vous utilisez sans gêne pour vous définir ? Qui a envie de commencer ?
Sarah ? Vas-y. Moi, c'est un terme que j'ai utilisé très tôt, donc quand j'ai compris que j'étais lesbienne donc à 13-14 ans. C'était le seul mot que je connaissais et j'étais pas au début au courant que ça pouvait être utilisé comme une insulte. Donc c'est quand j'ai été insultée au collège que j'ai compris qu'avec le sale devant, ça devenait une insulte assez stigmatisante. Mais c'est un mot que j'aime beaucoup, qui mérite d'être repolitisé, justement parce que le mot a tendance à être utilisé d'autres manières et je crois qu'on va en reparler un moment dans l'émission. Mais tout comme Gwyn, lesbienne, c'est un terme que j'affectionne beaucoup.
Et toi, Mélissa ?
J'aime les gros mots et j'aime aussi ne pas souscrire à ce que la société attend de moi. Aussi, avec des amis, on a cette impression que on a lu une théorie un jour que l'identité caribéenne est intrinsèquement queer et que lesbianisme est une forme de libération par rapport à l'esclavage et à la colonisation. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé m'appeler une lesbienne de manière politique. Et après ça, genre, non, je ne vais pas dire ça parce que j'aime pas ce terme. On ne va pas utiliser le terme horrible qui est assez fétichisant.
Il y a une pause, on va dire.
En anglais.
Ok.
Ah ouais, vous connaissez. Ok, Gold Star.
Non,
c'est genre le terme pour les lesbiennes qui n'ont jamais eu de relation avec des hommes cis.
Ok.
Je trouve qu'il est un peu. Ah ouais, d'accord. Ok, je pensais que.
D'accord. Bon, écoute, on aura appris quelque chose. Merci, Mélissa.
Oui, merci beaucoup.
Je vous ai appris un truc horrible que même moi, j'aime pas utiliser.
Eh bien, merci, Mélissa, de nous avoir appris quelque chose d'horrible.
Je suis désolée.
C'est malin. Dans le livre, justement, Aloïse Sauvage dit que ce mot est moche en bouche. Donc, je la cite. Et donc, Sarah, à ton avis, d'où vient ce problème avec ce mot et qu'est-ce que ça révèle, selon toi ?
Eh bien, ce mot, le problème, c'est que concernant la question lesbienne, à chaque fois, les mots utilisés sont produits et utilisés par la population hétérosexuelle pour stigmatiser les lesbiennes. Donc, Christine Barr en parle, donc l'historienne qui a préfacé notre livre, en parle dans certains de ses travaux. Depuis les années 20, tous les termes qui ont pu être utilisés pour nommer les lesbiennes étaient stigmatisants et très souvent déjà associés à la pornographie. Et encore aujourd'hui, en 2024, le mot lesbienne est en permanence et systématiquement ramené à un imaginaire pornographique hétérosexuel qui va réduire en fait les lesbiennes uniquement à leur sexualité et une sexualité faite pour faire fantasmer les hommes hétérosexuels. Et par exemple, moi j'ai créé des alertes Google avec le mot lesbienne depuis 6 ans, avec à l'époque Paytaguin et l'Observatoire. Et là, depuis 6 mois, j'arrête pas de recevoir des alertes Google que pour des sites pornographiques. Alors oui. Qu'il y a quelques années, j'en avais pas autant. Et là, toutes les semaines, j'ai à peu près 4-5 mails de sites vraiment, en plus des sites pas connus, c'est pas des gros sites pornographiques, c'est vraiment des sites un peu, éparses. Et il y a toujours ce mot, en fait, qui apparaît accolé à d'autres mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc sœur, mère, fille, c'est quand même assez violent. Et je pense que c'est ce qui participe au fait que beaucoup de lesbiennes ont encore beaucoup de difficultés, voire refusent de se définir publiquement de cette manière, ça c'est évident.
Je proposerais du coup des mots créoles. Par exemple, en créole, c'est ma divine, que je trouve qui est absolument magnifique parce que les personnes queer étaient considérées comme des personnes spirituelles et c'est les premières personnes qui ont été assassinées quand ils ont commencé à faire la traite d'esclaves. Et aussi que si on pense à dans le vaudou, les personnes qui sont queer sont considérées plus. Puis femme qui est femme, puis l'homme qui est l'homme, et des personnes qui n'ont pas nécessairement de genre attribué et qui sont plus adeptes à être en connexion avec les esprits. Du coup, je considère que c'est un upgrade de dire ma divine en tant que lesbienne. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, c'est entièrement à voir avec l'âme. Et comme ça, vous ne vous trouverez pas connecté au porno, qui est en général, en fait, ils voient qu'il y a un accroissement de recherche porno pour les groupes qui sont les plus opprimés. Et c'est vraiment relié aux politiques et à la presse en général. Ils remarquent à chaque fois qu'il y a des lois qui ont été votées, par exemple des personnes trans, il y a énormément de search sur Pornhub pour des personnes trans. Les personnes qui sont les plus opprimées sont toujours plus sexy.
Okay. Bon, bah, tu vois, tu nous as quand même là appris quelque chose de joli. Ma divine, ça contrebalance avec la...
Oui, après ça, il ne faut pas se l'approprier, je suis désolée.
C'est vrai, mais on a juste appris. De toute façon, on ne dira ni l'un ni l'autre.
On apprend beaucoup de choses ici à chaque émission. Se dire lesbienne, ça veut dire aussi le dire aux autres. Et ce n'est déjà pas simple dans le privé. Mais quand on est célèbre, le coming out public peut s'avérer vraiment compliqué et plus ou moins contrôlé. Mélissa, comment s'est fait ton coming out public? Et est-ce que ça a eu des répercussions dans ton travail à un moment?
Absolument pas, parce que je n'ai jamais été vraiment... Je pense qu'on a tenté de me sexualiser au début de ma carrière. Je me souviens, la première bio que j'avais eue, c'est Mélissa Lavo, cette voix juvénile et sensuelle. Et là, j'ai capoté. J'étais comme, what the... Et après ça, je pense que je n'ai jamais vraiment été très sexualisée. Je suis assez corpulente et je n'ai jamais souscrit à des standards de beauté français ou occidentaux. Et du coup, ça n'a pas vraiment eu de répercussions parce que, je m'excuse de mon langage, I've never been fuckable dans l'industrie de la musique. Jamais été considérée fuckable. Et du coup, c'est genre, oh, elle est lesbienne. Ben, souvent, les gens de commentaires que je me rends, c'est genre, oui, mais c'est par défaut. Parce que personne ne baiserait. Et sinon, en privé, c'était assez violent. Genre, on a demandé privé et public, c'est ça?
Là, c'était juste public. Mais...
Ah, non, c'est juste public. OK. La violence, c'est... Ouais, j'ai pas trop parlé de... Du fait que ma mère a essayé de me reconvertir à l'hétérosexualité avec une messe chantée à la maison par un prêtre. Ouais. Ouais. Et puis elle m'a traité de démon, sachant que j'ai grandi très très catholique. C'était assez violent. Publiquement, du coup, c'était à Radio France. Je pense que c'était genre un jour particulier. Et quand j'ai expliqué les conditions de ma naissance, les circonstances de ma naissance, la journaliste m'a appelé un miracle lesbien. Et je trouvais ça assez, assez chouette. Donc, je suis immortalisée sur les ondes de la radio nationale comme un miracle lesbien. Et je reste imbaisable dans l'industrie de la musique. Du coup, moi, j'adore être un ovni. Tout va bien chez moi.
Super.
Et donc, en cette rentrée littéraire, on ne savait plus trop quoi lire. Donc, on est allé faire un tour du côté de Violette & Co, la librairie parisienne lesbienne et féministe, pour avoir quelques recommandations.
Salut, c'est Aura de Gouinement Lundi. Et on est chez Violette & Co pour la rentrée littéraire. On va faire un petit tour des livres avec Olivia de Violette & Co.
Bonjour.
Olivia, est-ce que tu as des recommandations pour cette rentrée littéraire?
Ouais, on a plein de belles choses à la librairie. Je vais vous parler de certains coups de cœur que j'ai eus pendant cette rentrée littéraire. Un des premiers coups de cœur, c'est La fille verticale de Félicia Vitti. Ça a été publié dans la collection Blanche de Gallimard. Et c'est une histoire d'amour lesbienne qui a ses difficultés, qui est très dysfonctionnelle, où il y a des violences physiques et psychologiques. Mais malgré tout, ça pose plein de questions sur voilà, comment vivre ces relations lesbiennes dans une situation aussi hétéro-patriarcale, comment on se construit en tant que lesbienne. Et voilà, on apprend plein de choses dans cette romance sur la narratrice, d'où elle vient, en Corse, comment elle s'est construite vis-à-vis de son père. Et moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. L'écriture est hyper belle et ça fait aussi plaisir de voir des romances lesbiennes publiées dans la collection Blanche de Gallimard à la rentrée littéraire. Ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est un vrai premier coup de cœur. Ensuite, il y a Le déni lesbien de Sarah Jean-Jacques et Sophie Pointurier, qui est publié aux éditions HarperCollins. Une merveille, vraiment une première archive sur en fait, la question de qu'est-ce que ça fait d'être lesbienne et de faire son coming out tout en étant une personne publique. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Quel est l'impact? Est-ce qu'il y en a un? Et est-ce qu'en fait, en 2024, actuellement, on fait ça sans vraiment y penser? Et évidemment, la réponse, c'est que non, et c'est un gros enjeu. Donc voilà, ça c'était aussi un essai lesbien de la rentrée littéraire qui est un gros coup de cœur. Et après, il y a aussi des coups de cœur bande dessinée. On a Adieu mon royaume de Marcel Sorian, qui est une très belle BD qui nous plonge dans un environnement moyenâgeux où on rencontre plein de personnes queer qui constituent ce monde. Et en fait, on se rend compte au fil de la lecture de ces petites histoires que toutes ces personnalités sont liées et que finalement, la question, c'est un peu la force du collectif, de toutes ces identités un peu brimées qui finalement se retrouvent pour pouvoir agir. Et c'est absolument merveilleux. Il y a des sorcières, il y a de la magie, il y a voilà, un univers graphique très, très magnifique, très coloré. Et voilà, c'était vraiment un coup de cœur. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et il y a eu aussi des très belles choses qui sont sorties en jeunesse. On a un bel espace jeunesse au fond de la librairie. Toute une salle lui est dédiée. Et c'est vrai qu'on s'attache vraiment à mettre en avant des livres avec sans stéréotypes et qui ont des représentations plus inclusives. Et il y a Lady Papa de Émile Chazeran et Digli aux éditions de La Ville Brûle qui est sorti. Et du coup, c'est un papa qui est drag queen. Et en fait, son enfant est à l'école et doit répondre à la question « C'est quoi le métier de ton papa ?» Et du coup, là, l'enfant répond. Donc c'est vraiment un livre qui parle de comment se constituer une famille choisie, qu'est-ce que c'est être différent, et comment c'est nous aussi qui créons nos différences, et finalement on peut aussi inclure le plus de gens possible. Et il y a un autre coup de cœur jeunesse, rapidement, c'est chez Sarbacane, la collection Les Petites Sorcières d'Anne-Fleur Multon. Anne-Fleur Multon qui a écrit Les Nuits Bleues, romance lesbienne assez iconique, qui là maintenant écrit plutôt des choses jeunesse, et qui nous présente une collection où dans chaque petit livre on découvrira une petite sorcière. Ces petites sorcières, elles sortent des cadres stéréotypés des petites sorcières féminines, on va dire, et elles sont très badass, et elles réparent des objets, elles mènent des enquêtes, donc nous on les aime beaucoup à la librairie.
Merci beaucoup Olivia pour ces conseils. Vous pouvez retrouver tous ces livres chez Violette & Co. Et nous, on a hâte de lire ça.
Et vous, est-ce que vous avez des recommandations littéraires ou musicales ?
Oui, moi j'ai un livre, le deuxième livre de Sophie Pointurier, j'en profite, qui s'intitule « Femmes portant un fusil », qui a été publié il y a 2 ans et qui s'inspire des communautés séparatistes lesbiennes en Oregon. Sauf que là, ça se passe en France et... Ça s'articule autour un peu du meurtre d'un homme. Et on suit justement un groupe de femmes qui s'est installé dans un espace qu'elles ont créé ensemble. Et je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Il est très, très bien.
Ok, merci. Et Mélissa ?
J'en ai 1000 parce que je suis en train de lire. J'ai beaucoup de livres sur mon téléphone. Ça, c'est mon passe-temps, pas vrai. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur Audible de science-fiction futuriste où ça se passe dans 40 ans. Et du coup, il y a une genre de... tellement compliqué à expliquer. En tout cas, c'est une personne qui jouait dans Our Flag Means Death, le personnage qui est trans et non-binaire, qui joue dans Our Flag Means Death et la personne qui fait la narration. Et c'est un livre futuriste qui est tellement mignon. C'est comme un rom-com dans l'espace, mais ça parle très, très précisément de la matière noire, par exemple, et du voyage... interspatial, je trouve ça assez cool. Il y a le livre que vient de traduire Virginie Despentes de sa copine sur les femmes, le sexe et la musique qu'a écrit Larata. Et ça sort jeudi, me semble. Il y a un événement au Sabonneur. Et il y aura un événement justement où je vais jouer. Il y aura Mila Fury, il y aura Soa de Muse à la Maroquinerie le 5 novembre. Je vais écrire la préface d'une réédition du dernier recueil de poésie qu'a écrit Audre Lorde. Et ça me affectionne particulièrement. Je commence à pleurer à chaque fois que je commence à écrire. Et la semaine dernière, on m'a dit qu'il fallait l'écrire en français. Et puis j'ai pleuré, mais quand même pas bien. Parce que là, je vais devoir me traduire. Et alors que j'écris un truc très larmoyant sur le fait d'être face à la maladie en tant que lesbienne et de se sentir complètement seule dans ce monde. Et déjà assez pourri en tant que vivre dans un corps noir, mais comme vivre dans un corps malade, noir, dans une société occidentale, c'est vraiment genre la pourriture, mais genre collée à tes cheveux. Donc il y a ça, je sais pas, il y a tellement de trucs lesbiennes. J'ai l'impression que j'oublie que les hétéros, ils existent, parce que ma vie est juste gay. Ah, il y a le livre qui va être interprété par les sœurs Wachowski de science-fiction, qui est trop beau. Encore science-fiction. Et puis, du coup, il faut que j'ouvre mon Audible. Je suis désolée, je suis un peu perdue aujourd'hui. Et,
Après, ça va, tu nous as déjà donné
on pourra toujours les recommander ensuite.
Ouais.
Mais tu nous donneras ta liste.
C'est sûr. Ok, d'accord. C'est Stars Too Fondly, si vous voulez la version rom-com.
Okay.
De Emily Hamilton, et Hell Followed With Us de Andrew Joseph White. si vous voulez des livres. Et aussi The Priory of the Orange Tree, qui est un livre lesbien. Aussi futuriste, mais médiéval. Genre, c'est comme Game of Thrones, mais avec des lesbiennes.
Je pense, Mélissa, qu'il faut que tu collabores avec Violette & Co.
J'habite très bien sur Violette & Co, mais en fait, tous leurs événements où je vais aller, je suis occupée. Et c'est ma plus grande tristesse en ce moment, cet automne. C'est que j'ai raté tous les événements auxquels je voulais assister.
Bon, mais il y en aura plein d'autres.
J'espère,
vivant. Je pense, ouais. Alors, dans le côté pas cool du tout de se vivre comme lesbienne, c'est s'exposer à la lesbophobie. Donc, notons déjà, hein, comme précisé dans le livre Le déni lesbien, que le mot lesbophobie est prononcé officiellement pour la première fois en 1998 et il ne rentre dans le dictionnaire qu'en 2015. Donc, Sarah, toi, entre l'observatoire de la lesbophobie et l'écriture de ce livre, tu as une bonne expérience hein, en la matière. Et c'est quoi, en gros, l'essentiel des manifestations de la lesbophobie? Et est-ce qu'elles prennent une dimension particulière pour les personnes publiques?
Alors, la lesbophobie, je l'ai aussi analysée dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue récemment. Mais c'était vraiment axé sur la question des espaces publics. Mais il y a vraiment des points communs. Ça va être d'abord des agressions verbales, principalement. Et ces agressions verbales vont vraiment s'articuler autour de l'hypersexualisation des lesbiennes. Des couples dans les espaces publics quand elles vont par exemple se tenir le couple va se tenir par la main ou échanger un baiser, et donc cette hypersexualisation, elle va vraiment réduire les lesbiennes à leur sexualité. Elles vont être le couple va être nié, donc on va vraiment avoir un regard surplombant des hommes en fait sur le corps et sur les relations lesbiennes qui vont participer à leur effacement. Concernant les personnalités qu'on a rencontrées, ce qui était intéressant, c'est que ce projet, en fait, on l'a mené parce qu'on voulait photographier à un instant T, donc en 2024, la condition lesbienne en France et comprendre quels sont les dommages et les gains à se dire publiquement lesbienne. Donc on est parti de l'expérience publique des personnalités parce qu'aussi c'est un miroir grossissant de la situation et de ce que vivent aussi les lesbiennes au quotidien. La particularité pour les personnalités publiques, ça va être le décuplement des violences, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, avec les zones commentaires en dessous des articles qui vont être relayés, même pendant des interviews, en fait, la violence peut être décuplée parce que les personnes vont commenter, ça va être diffusé de manière générale à l'échelle nationale, ce qui n'est pas le cas d'une lesbienne anonyme au travail. La deuxième chose, c'est que comme on parle de l'activité professionnelle, on va peut-être pas retrouver, et c'est ce qu'on montre aussi dans le livre, une lesbophobie plus explicite, plus voilà directe, comme un sale lesbienne ou allez tous vous faire violer. Ça va être plus une lesbophobie plus invisible, plus feutrée, qui va prendre la forme d'une stigmatisation, mais surtout d'un plafond de verre, d'empêchements extérieurs qui vont mener justement les personnalités à mettre en place des stratégies pour justement déjouer les tensions générées par leur exposition médiatique.
Et dans le livre, vous dites avec Sophie Pointurier avoir été surprise par les témoignages de répercussions dans le milieu professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu dirais qu'il n'y a pas d'évolution?
L'évolution, elle est très lente, hein, malheureusement. Les répercussions, je pense notamment Alice Coffin, on lui a interdit de traiter de certains sujets, notamment la question du mariage pour tous et de la PMA dans sa rédaction. Pareil pour Marie Laborie. Je sais que, Mélissa, toi aussi, tu nous en avais parlé sur des programmations, de ne pas être programmée. Tani nous en a parlé aussi. Donc, effectivement, c'est comme si le fait de se dire publiquement lesbienne, en fait, ferme certaines portes, ça c'est clair, et contraint à un moment la carrière et l'empêche d'évoluer. Et ça concerne les lesbiennes qui ont une dimension publique dans leur travail, mais je suis convaincue, parce qu'il reste encore très peu d'études sur le sujet, enfin ça existe encore pas beaucoup, que c'est aussi le cas pour les lesbiennes du quotidien dans leur travail respectif.
Toi, Mélissa, est-ce que ça t'est arrivé dans le milieu professionnel de cacher ton homosexualité par peur des réactions lesbophobes?
Vraiment, juste parce que j'étais jeune et je pense que mes premières interviews de radio étaient très, très hardcore. Je me souviens juste d'une interview qui... Plusieurs expériences qui étaient très, très mauvaises sur les premières années. Aussi, j'étais dans un groupe, le premier groupe de musiciens avec qui j'ai joué, les gars faisaient des commentaires dans le genre, des commentaires grossophobes ou bien des commentaires sur l'épouse que j'avais à l'époque avait 11 ans de plus que moi. Et genre, en parlant de ta mère, comment va? Et j'étais genre, ok, genre des commentaires un peu agressifs. Et j'ai vite viré ce groupe qui n'a pas joué avec moi trop longtemps. Donc pour moi, c'était vraiment plus J'ai jamais pu vraiment cacher parce que j'ai toujours été fière d'être lesbienne. Genre, j'ai une sorte de joie de vivre d'être lesbienne, d'être comme... C'est un peu... Je pense que c'est parce que je suis haïtienne et puis on est juste trop fiers d'être les premiers. Genre, on est Capricorne, on est les premiers. Et puis genre, je suis lesbienne. Comme c'est ça a toujours été une joie. Donc j'ai du mal à cacher, même quand j'étais en Haïti, en fait. Et bien sûr, qui est-ce que j'ai rencontré? Que des artistes queer, comme James Germain ou des cinéastes ou des journalistes. J'allais dans les clubs gays. Ça ne m'a pas empêché de faire une tournée de 6 semaines en Afrique du Sud, au Lesotho, dans des pays où être gay est techniquement illégal. Et les gens qui venaient étaient clairement trans et gays. Mais ça n'empêche pas. C'est juste que... Ça finit toujours par être les journalistes choisissent de ne pas poser la question. Et tu finis par te faire programmer parce que les gens qui sont à la programmation sont eux-mêmes de la communauté LGBTQ. Quand j'étais en Haïti, je ne peux pas dire grand-chose. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas out. Mais elles se connaissent. Mais quand même, je pense que autant qu'il y a un plafond de verre, on doit remercier les personnes qui sont pas out parce qu'elles ont énormément de pouvoir et elles nous programment. Et elles nous programment spécifiquement parce qu'elles veulent avoir notre visibilité.
Mmh. Oui, tu as parlé de la joie d'être lesbienne. Et d'ailleurs, Sarah, le livre Le Déni lesbien se termine quand même sur la joie d'être lesbienne. Et ça nous amène du coup à vous demander qu'est-ce que vous préférez dans le fait d'être lesbienne? Cette question s'adresse à tous.
Bah, je vais commencer. Sarah. Moi, je dirais que c'est-à-dire que... Effectivement, il y a toute cette partie de la lesbophobie, du stigmate qui structure forcément nos expériences et nos vécus. Et ça, c'est pas la partie la plus joyeuse. Mais je trouve quand même que malgré tout, malgré cette marge, en fait, ces violences dans une certaine mesure, mais surtout cette position à la marge, permet vraiment d'être hyper créative. C'est très inspirant, c'est très riche. Moi, je sais que, par exemple, que voilà, j'ai fait mon coming out très tôt. Ça m'a permis de... j'ai fait quand même une thèse sur le sujet. J'ai cofondé l'Observatoire avec Sophie, on a écrit ce livre. Je pense que c'est, comme le dit très bien Lise Coffin, le génie lesbien, c'est ça aussi. C'est qu'il y a un moment, on crée sa place quelque part, on crée ce qui n'existe pas. Et c'est vraiment le cas, par exemple, des 20 personnalités qu'on a rencontrées pour le livre. Elles le disent toutes à un moment. Ça permet vraiment de créer, d'ouvrir un champ des possibles malgré les violences. Et cette marche, finalement, crée un point de vue situé critique qui est très porteur, en tout cas pour moi. Dans ma vie, ça me porte beaucoup.
Mélissa ?
Je pense que ça va vraiment dans le sens de ce que dit Sarah. C'est le génie lesbien et la créativité, la qualité, the breadth and the depth of the work of lesbians. Je vais le dire en anglais parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mots en français pour dire ça. Et ce qui est drôle, c'est aussi que même quand je ne savais pas que j'étais lesbienne, j'étais orientée vers ces travaux. J'ai toujours adoré le travail de Emily Dickinson. Quand j'ai trouvé le travail de Edmonia Lewis, je me suis dit, waouh, c'est fou, cette personne était normalement dans un pays où les gens étaient esclavisés. Et en fait, elle est complètement libre. C'est la première à aller à l'école des beaux-arts. Et en fait, quand j'ai appris qu'elle était haïtienne, et après ça, j'ai appris qu'elle était lesbienne, je suis comme, of course. Et à chaque fois, c'est le plaisir de trouver un truc qui est tellement génial et tellement fort et tellement percutant. Chaque fois que je lis un poème de Mary Oliver, chaque fois que je lis un poème de Audre Lorde, de se mettre à chialer. Et c'est pas que les poèmes de personnes hétéras ne sont pas beaux. Il y en a beaucoup qui me touchent aussi. Mais je vais jamais pleurer autant que... Là, je sais pas combien de fois je vais lire Wild Geese et chialer comme une vieille merde, mais ça va m'arriver à chaque fois. Et je suis comme, yes, I'm enough. mais c'est... Et je pense que c'est... C'est ce que disait James Baldwin, qui devrait vraiment être une lesbienne, où il disait que cette souffrance a donné une sorte de sensibilité qui permet aux personnes LGBTQ d'avoir une créativité tellement sensible et tellement précise dans le choix des mots et dans le choix de comment on se déploie dans notre travail artistique. Donc, pour moi, c'est une évidence. Et je trouve que c'est le truc qui est le plus passionnant, c'est comment est-ce qu'on se retrouve toujours à choper le truc queer, alors qu'on savait pas du tout que la personne était queer à travers l'histoire. On était juste genre, c'était vachement bien. Ah, oh, d'accord.
C'était ça, en fait.
Aura, toi, qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être lesbienne?
Oui, j'y vois une certaine joie parce que déjà, je trouve que les lesbiennes ont un certain goût. Et ça, c'est pas mal. Et une certaine sensibilité aussi, effectivement. Et puis parce qu'on a une liberté, parce qu'on n'est pas codé pareil. En fait, on a refusé, je pense, consciemment ou pas, mais à un moment donné, on s'est mis à distance de choses qui pouvaient nous,
nous enfermer et ça nous a donné des libertés et donc on s'est émancipé. Et ça, c'est génial. Et des gens passent leur vie à essayer de s'émanciper et nous, on a dû s'émanciper et c'est, ouais, c'est un gain de liberté. Je dirais que c'est ça le positif. Même si c'est pas toujours facile non plus dans le milieu pro, etc. Ben, on va passer à la chronique de Luce.
Ouais, Luce. Une petite pause humour dans cette émission pas toujours très gay, même si pas toujours très joyeuse. On accueille Luce, donc, qui vient tout juste de rejoindre l'équipe de Good Morning Lundi. Alors Luce, comment ça se passe ta rentrée à toi ?
Bah écoute, ça va. En fait, j'ai commencé un nouveau taf et j'avais donc très peur de tomber sur des collègues qui soient transphobes ou homophobes justement. Mais j'ai testé plein d'astuces et donc je vais vous les partager, comme ça vous pourrez les réutiliser face à la lesbophobie ou à la transphobie au travail. Par exemple, si malgré votre coming out trans très clair, votre collègue Pascal continue à vous mégenrer, eh bien quand il vous proposera un café, vous pouvez lui répondre « Ah merci, c'est pas elle mon pronom, c'est bien il et je prendrai un café allongé. Enfin, je vais rester assis, hein. » Vous donnez l'information, mais vous enchaînez tout de suite avec un jeu de mots de merde. J'appelle ça un uppercut de l'humour. La gêne le mettra tout de suite KO. Si par malheur ou stupidité, Pascal continue aussi à se tromper de prénom. Votre prénom serait trop original, non pas parce que vous êtes trans, mais parce que vous n'avez pas choisi Sam ou Sacha. Vous pouvez lui répéter. Pascal, mon prénom, c'est Luce. Pas Lucie comme Lucie Castet, notre première ministre. Ah merde, en fait, moi j'avais commencé à écrire ça quand je croyais encore que la gauche avait gagné. Je rectifie. C'est Luce et pas Michel comme Michel Barnier. Ah mince, en fait ça marche vachement moins bien quand on remplace une lesbienne stylée de gauche par un vieux mec 6-7 de droite. Bon, je réessaie avec une lesbienne. C'est Luce et pas Monique comme l'écrivaine Monique Wittig. Ah mince, en fait, ça marche pas non plus parce qu'en fait, je m'appelle aussi Monique en hommage à ma tante que j'embrasse et à qui je fais un coming out au passage. En parlant de coming out, deuxième problème. Lundi matin, Pascal raconte son week-end en Normandie avec sa femme et ses gosses. Puis il se tourne vers vous, l'air hésitant. Et toi, t'as passé un bon week-end avec ton copain ou t'as... Que répondre ? Option A, ne pas mentir, mais rester dans l'ambiguïté. Ah oui, petit dimanche tranquillou à caresser mes chattes. Femme à chat ou grosse goudou, le doute laissera place au silence. Option B, tenter de l'embrouiller. Pascal, la fluidité et la multiplicité de mes relations sexualo-romantico-anarcho-affectives ne rentrent pas dans la dichotomie hiérarchique hétéronormative qui distingue le couple de l'amitié. C'est le bullshit queer. Le BQ, à ne pas confondre avec le PQ, dans les deux cas on remplit des pages blanches grâce à un trou noir, mais l'un des deux est un poil plus théorique. Option C, la dernière, dire la vérité. Ah oui, j'ai passé une super journée à me balader avec mon amie, enfin la fille que je vois. En fait, on s'est pas dit si... Et là, plein de sueur de stress, j'ai sorti discrètement mon portable et j'ai utilisé toute ma dextérité pour écrire du bout de mes doigts mouillés un SMS. Léa, est-ce qu'on est en couple ? Là, elle m'a répondu. Pourquoi tu me demandes ça maintenant et par SMS à 9h34 le lundi matin ? J'ai donc dit, mais pour Pascal ! Et là, il a donc fallu que j'explique que je n'étais pas en train de lui proposer un plan à trois avec un mec cis de 50 ans, mais que je voulais juste prendre un café allongé avec un collègue.
Ouais, il se passe plein de choses hein, dans ta vie professionnelle. Et donc, bonjour Pascal, au passage. Bah, merci beaucoup, Luce.
Et avant de nous quitter, on vous propose d'écouter deux génies queer lesbiens. L'une est suisse guatémaltèque, l'autre est française et leur duo donne un morceau survolté. C'est Baby Volcano et Lucie Antunes qui chantent Luchadora, traduisé par combattante.
Bueno pues, la cosa sería un poquito así, ¿no? Entre lo caótico. Genio.
Voilà, l'émission en direct est déjà finie. Mais n'éteignez pas votre radio, car l'interview de Safia Nolin par Aura commence dans quelques minutes. C'est le temps que nous disions au revoir à nos invités.
Et avant ça, on vous signale deux dates à noter dans vos agendas. Le 18 octobre, c'est le jour de la soirée Club Gwyn qui aura lieu à partir de 21h30 aux Souffleuses à Paris. Concerts et DJ au programme.
Et la deuxième date à bien retenir, c'est celle du Bingo Drag qui sera donnée pour Gwynement lundi, le dimanche 27 octobre à La Folie à Paris. On espère vous y voir nombreuses et nombreux. Et oui, désolé, c'est que des dates parisiennes. Gwynement lundi, ça n'arrive pas encore à vraiment s'exporter hors Paris.
On Mais espère. On a envie.
Oui. Donc merci Sarah et Mélissa. Sarah, c'est quoi tes prochains travaux de recherche ?
Là, je vais publier ma thèse en janvier 2026 aux Presses universitaires de France. Donc, je suis en train de travailler et de raccourcir mon manuscrit de thèse.
Donc, rappelle-nous le sujet.
Des lesbiennes. Enfin, j'ai travaillé sur la place des lesbiennes dans la ville et je me suis intéressée aux conséquences de l'hétéronormativité de la ville sur leurs expériences et leurs pratiques à Paris.
On lira ça avec attention quand ce sera publié. Et Mélissa, tu nous as dit déjà un petit peu tout à l'heure que tu avais une date à la maroquinerie, c'est ça ?
Je suis partie d'une date à la maroquinerie le 5 novembre. Je fais le cabaret des Makoumé Superstar de Noam Sinso à la Flèche d'Or ce vendredi. Je suis en train de travailler sur deux albums, dont un sur toutes mes morts. Toutes les fois où j'ai vraiment failli mourir, qui va sortir à l'automne prochain. Et le sixième sera un album après une résidence à la Nouvelle-Orléans en février, en mars, où je vais travailler sur le travail de folkloriste Zora Neale Hurston.
Super, des super projets à venir. Donc ben, merci Laura et Luce aussi pour vos chroniques.
Merci, bonne soirée.
Bientôt. Alors, bah, merci à toute l'équipe de Gwynement lundi, Inès, Nola, Sophie, Gaëlle, Joséphine, Yuna, Serena, Hélène, Juliette. Et merci surtout à Emma qui a assuré la technique ce soir. Et c'était donc Isabelle et moi-même, Aura, à l'animation.
Et donc on se retrouve dans 4 semaines. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous montrer votre amour en nous mettant plein d'étoiles.
Et on vous laisse avec donc Safia Nolin, son nouvel album qui sort ce vendredi 18 octobre, qu'on a eu la chance, nous, d'écouter en avant-première et qu'on a adoré. Et on vous dit à très bientôt et prenez Gwynement soin de vous.
À bientôt.
Gwynement lundi, votre phare dans la nuit.